dit Julius. Adieu, dit Thomas. Puis le papé et Thomas descendirent dans le vallon. Le grand bélier maître était couché à l'écart sous un chêne vert. Il avait saigné sur le thym et sur les petites sarriettes tendres. Ses cornes étaient emmêlées à l'herbe. Il se plaignait. Sa langue pendait dans la terre, sèche comme une pierre. Il était couvert de mouches et d'abeilles. Thomas chassa les mouches à coups de chapeau, puis il tâta les reins de la bête. Il fit jouer le ressort des jambes. Il toucha doucement la blessure d'entre-cuisse. La bête ne se plaignait pas. Elle regardait l'homme à pleins yeux. « Patron, dit Thomas, je vais te demander quelque chose, sauve mon bélier. Avec son courage, il va se redresser, il va marcher, qui sait, 100 mètres, 1000. Parce qu'au fond, je ne connais pas le courage de cette bête, puis il tombera, il restera pour mourir sur le talus de la route. Sauve-le, on peut encore, prends-le, monte-le à ta ferme, soigne-le. Et quand les temps auront passé, si je suis encore en vie, je reviendrai le chercher. Ça, j'en suis capable, dit le papé. Et merci, berger, de m'avoir fait voir ta pitié avant de partir. » Thomas tira son chapeau sur ses yeux. « Je te l'ai dit, on n'a plus de ressources qu'en la charité du monde. Attends, dit le papé, je vais chercher la brouette, ça sera plus facile pour le porter. » Ce fut le berger qui mit le foin au fond de la brouette et un vieux sac, puis on chargea le bélier. « Fais bouillir de l'aigre moine, dit Thomas, et puis, lave-lui le dedans des cuisses. » Puis tu feras une pâte de soufre et d'huile vierge pour les endroits où ça saigne, 2 fois par jour. Mais je le connais, il a autant besoin d'amitié que de remède. Il sera vite sur pied avec toi. Il mit sa main au front de la bête et il gratta doucement, sous les poils, d'un petit gratté léger d'amitié. Le bélier regarda l'homme, puis en tremblant des babines, il ronfla le grand mot d'amour des béliers. « N'aie pas peur, dit le berger, je te laisse chez un bon homme. Ah, si je m'en vais, mon bel Arlésien, c'est que le destin tire ma veste, va sans ça, on serait restés ensemble jusqu'au bout de la vie. Je te demande une chose, Arlatène, sois brave avec cet homme, ne lui mets pas le désordre dans son étable, ne choisis pas l'herbe, ne te couche pas dans le nid des poules. Si tu as des brebis, ne fais pas le fou, mange ton sel doucement. Maintenant tu es de cette maison. Obéis bien aux femmes et fais-toi respecter. » Puis à bout de bras, il chercha la main du papé. « Je te paie d'un merci, mais si je dois quelque chose, tu dois rien, dit le papé, tu dois d'ancrer à ton mas, voilà tout. Et si ton maître ne te tire pas le chapeau, quand tu passeras le portail, dis-lui de ma part qu'il est pourri. Adieu. » Au milieu de la pente qui était dure à remonter avec le bélier dans la brouette, le papé s'arrêta. En bas le troupeau partait. Thomas bougeait les bras d'avant-arrière, comme s'il brassait une grosse patte, et toute la patte du troupeau levait doucement dans les herbes. Puis, Thomas regarda vers le papé, il haussa la main pour dire adieu et le bras en l'air, il partit devant les moutons dans le gros vent d'août qui coulait à plat comme un fleuve. « le corbeau, crie l'homme. Joseph se dresse hors de l'herbe. Il a son fusil à la main, il est trop loin, il dit je peux pas tirer. Le corbeau s'en va sur ses ailes lentes. On l'entend voler, il y a un vaste silence sur la terre, seul au bord du champ, un tas de fumier geint doucement comme quelque chose qui cuit. Si c'était un fusil de chasse, dit Joseph, oui, mais avec ça, va-t'en l'attraper d'une balle. J'ai peur, dit doucement l'homme couché dans l'herbe. C'est pas une chose d'homme d'avoir peur d'un oiseau, dit Joseph, alors tu crois que je vais te le laisser venir dessus, tu crois que moi, avec mon fusil, alors nous sommes beaux si tu as peur. » Joseph se penche sur l'herbe où l'homme est couché et il met sa main sur ses épaules immobiles, appuyées de toute leur largeur sur la terre et il dit d'une voix qu'il va chercher au fond de son enfance, « Je te garde, vieux, je suis là. » Et avec les yeux il dit, « Moi ton copain, moi. Alors, y a plus d'amis si je peux plus te défendre d'un corbeau. Bon fait l'homme qui a tout compris. » Joseph quitte son fusil, puis il s'agenouille, puis il se couche dans l'herbe. Le silence descend et pèse sur la terre de tout son poids. « Tu as enlevé ta capote ?» demande l'homme. Joseph ne répond pas. « Tu as enlevé ta capote ?» crie l'homme. « Quoi ?» dit Joseph. Il s'est dressé d'un coup à quatre pattes. Il regarde de tous les côtés, l'épaule droite un peu plus basse parce que sa main droite est au fusil. « Quoi ? Ils sont là ?» Qui, je dormais, ça te fait mal, vieux, non, je disais, tu as enlevé ta capote. Je suis bien fatigué, tu sais, dit Joseph, c'est comme si ça m'arrachait les yeux. Je suis là, je te parle, je te regarde et puis ça fait comme une barrique trouée, je me vide et je dors. Et tu as enlevé ta capote, demande encore l'homme. Oui, tu sais bien, oui, c'est à peine que tu t'en aperçois. Je l'ai laissé au bois gamin avant-hier à Creville, au moment où ils nous ont reçus à coups de fusil près du pont. Tiens, tu étais couché derrière le poteau, toi, ça m'entravait les jambes, je l'ai jeté en courant. Dis vieux, tu me laisses dormir.